Bonjour et bienvenue au podcast numéro 13 de Végétal Valais. C'est Stéphane Pire qui interview aujourd'hui Henri Monceau.
Mais bonjour et bienvenue à Végétal Valais, Henri Monceau, aujourd'hui, que je reçois. Bien gracieusement, il nous fait une visite éclair au Grès. Et il est basé aujourd'hui à Genève. Donc bonjour Henri, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours ?
Bonjour Stéphane, alors aujourd'hui je suis diplomate et je suis, j'ai un titre un peu impressionnant puisque je suis le haut représentant des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en charge des droits fondamentaux de la société de l'information et de l'économie numérique. Et donc l'essentiel de mon boulot, c'est notamment auprès des institutions internationales et des Nations Unies tout particulièrement, de suivre cette matière qui est assez nouvelle sur le plan de la gouvernance des relations internationales, qui est l'impact du numérique sur tout le reste, finalement, sur la manière dont ça change à peu près tout, puisque on doit se rendre compte que 99,9% des lois de l'appareil légal et juridique a été créé avant l'apparition d'Internet. Or, Internet, c'est et le numérique, plus généralement, c'est un rapport tout à fait différent à l'espace, au temps, au cognitif, et ça remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Voilà, alors c'est une vaste matière dans laquelle je suis impliqué aujourd'hui. Auparavant, j'ai travaillé pour partie sur le plan gouvernemental et puis aussi dans des actions qui relevaient plus de la société civile, toujours par rapport aux affaires publiques et aussi spatialement, disons, par rapport à différents territoires. La Wallonie, bien sûr, qui est ma terre d'origine, mais aussi pas mal sur le plan européen, à la fois à la Commission européenne, au sein de la Fondation Jacques Delors, dans différents lieux.
Ok. Alors donc, juste pour remettre Végétal Valais dans le jeu, ici. Végétal Valais s'occupe exclusivement de des intermédiations, hein, c'est-à-dire de couper tout le cheminement entre le producteur et le consommateur, donc de raccourcir les circuits. Et notre deuxième mission, mais qui est beaucoup plus provinciale au Grand Liège, c'est de lancer des canaux de communication tels que ce podcast. Et donc dans ce cadre de ce podcast, on invite des acteurs économiques, publics, culturels, associatifs. Et la première question que je pose toujours par rapport à la province, quels sont selon toi les enjeux à Liège? Quels sont les premiers points à corriger et à attaquer en priorité?
Alors, d'abord une remarque qui est que tous les territoires, absolument tous les territoires au monde, aujourd'hui sont resetés. Ils sont quelque part remis à zéro dans les faits, justement par cette révolution numérique. Le fait qu'on puisse travailler à travers des échanges numériques fait que l'unité temporelle de base, c'est la microseconde, la nanoseconde. Ça veut dire aussi que les frontières sont totalement abolies. Aujourd'hui, on peut imaginer une entreprise à Warem, à Oui, à Oupay, qui travaille directement par rapport au sud-est de l'Inde, à la côte ouest des États-Unis, à l'Amérique latine, peu importe. On a tous potentiellement une portée globale. Ce podcast, il pourra être entendu via Internet par n'importe qui, au moins n'importe qui comprend le français, et encore, puisque on a aujourd'hui des logiciels qui permettent de le traduire à peu près instantanément. Lui aussi. Voilà, ça c'est la dimension fondamentale qui est changée. Donc le territoire liégeois, la province de Liège, peut et doit se réfléchir par rapport à cette nouvelle donnée. Deuxième élément, par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, et notamment une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout le travail qui a été fait avec Jean-Claude Marcourt sur Creative Wallonia, c'est-à-dire sur une transformation créative de notre territoire, sur le fait de faire prendre conscience de plus en plus aux Wallons et aux Wallonnes que la créativité, c'est à leur portée, qu'ils sont traditionnellement très créatifs, mais que cette manière de penser en dehors des cadres établis, hein, de penser en « out of the box », comme on dit en anglais, c'est évidemment quelque chose qu'ils peuvent faire et qui est indispensable, encore une fois, dans cette époque globalisée, où si on veut éviter l'uniformisation, si on veut éviter d'être simplement des consommateurs, on doit être capable de retourner vers quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous différencie. C'est vraiment ça le conseil sur base de ces deux de ces deux premières remarques. C'est le conseil qu'on peut évidemment donner à un territoire comme la province de Liège, c'est de faire l'inventaire ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle fait, de ce qui la distingue de tous les autres. Alors ça peut être des choses positives, mais ça peut être aussi des choses négatives. Il ne faut pas avoir peur de regarder parfois les petits problèmes qu'on peut avoir et essayer de dépasser ça en apportant des solutions nouvelles qui sont peut-être des solutions qui vont s'imposer beaucoup plus généralement. Moi, je constate que, tu l'as évoqué tout à l'heure, je vis en Suisse. La communauté belge, et notamment wallonne en Suisse, est incroyable. Il y a des tonnes d'acteurs qui sont dans des postes décisionnels extrêmement importants dans le monde industriel, dans le monde bancaire notamment, qui sont des innovateurs pour une bonne part. C'est une des raisons pour lesquelles on fait souvent appel aux Wallons, parce qu'ils ont une bonne éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi des cursus éducatifs qui les amènent à avoir une véritable expertise. Ils ont aussi souvent une expertise sur le plan des métiers techniques et technologiques. Dans l'horlogerie, par exemple, pour rester en Suisse, il y a beaucoup de Wallons qui travaillent auprès de marques très, très prestigieuses. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Les Wallons de Wallonie, ils ne mesurent pas à quel point ils maîtrisent toute une série d'éléments. Ils ont toute une série d'atouts qui leur permettent vraiment de jouer dans la première division par rapport à ces développements énormes que l'on peut apercevoir à tout moment à travers les médias et à travers Internet notamment.
Ok. Et dans toute cette diaspora wallonne, toi, tu travailles étroitement avec Wallonie-Bruxelles International, je suppose, plus qu'étroitement. Quel est le rôle de l'AWEX et de Wallonie-Bruxelles dans cette partie-là? Est-ce qu'il y a autre chose que des aides, ou est-ce qu'il y a aussi une fosterisation des réseaux locaux, etc.?
Oui, tout à fait. Donc c'est un travail en profondeur. On a eu la chance d'avoir, à travers Roger Dehaebe et puis Philippe Suinen et aujourd'hui Pascal Delcominette, des responsables de l'action extérieure de la Wallonie et de Bruxelles, dans le cas de WBI, extrêmement clairvoyants, qui ont permis de mettre en place une véritable diplomatie, d'abord, puisque Wallonie-Bruxelles International dispose d'un réseau diplomatique, plus d'une vingtaine de diplomates, 18 postes actuellement, qui est très importante, notamment dans le contexte belge, puisqu'on connaît les transferts de compétences qui animent les différentes réformes de l'État. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on discute à l'Organisation internationale du travail ou à l'Organisation mondiale de la santé de problématiques qui concernent la Belgique, ça concerne la Flandre et ou la Wallonie, puisque ce sont des compétences qui ressortissent entièrement à celle des entités fédérées aujourd'hui. Donc c'est très important d'avoir cette action diplomatique. Mais et qui a un rôle multilatéral, qui a aussi un rôle bilatéral dans toute une série de postes, notamment au sein des grandes régions francophones, mm-hmm. à Paris, au Québec, dans d'autres lieux, en Afrique. Par ailleurs, il y a un travail qui est aussi très très important sur le plan du commerce extérieur, sur le plan économique plus mmh. généralement. Alors on a ces attachés économiques et commerciaux, là on en a plus de 80, on est représenté parce qu'on a des accords avec Bruxelles et avec la Flandre, des accords de représentation mutuelle, on est représenté dans 106 pays ou dans 106 postes aujourd'hui. Ça fait un réseau vraiment très très important, très étoffé, qui est au service de nos entreprises au sens large. On a aussi à Wallonie-Bruxelles International commencé à développer un autre type de réseau, celui des agents de liaison scientifique, c'est-à-dire les personnes qui assurent des relations entre instituts de recherche, universités, mais aussi, pourquoi pas, accélérateurs de start-up, lieux qui sont aujourd'hui à la pointe de l'innovation. Et voilà, il y a donc toute une série de passerelles qui existent et qui permettent souvent de concrétiser, pour ça a été vrai dans la vie de beaucoup d'entreprises, au sens encore une fois très large du terme, de concrétiser des intentions par rapport à une volonté d'internationalisation en fait réel.
Très bien. Et alors, bon, ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour d'autres projets, mais je te pose quand même la question, parce que je sais par ami interposé que des gens comme Damien Van Acter ou Olivier Verbeek, que tu continues à être impliqué sur des projets de start-up, et en tout cas d'incubation de start-up. Si tu peux nous en parler un petit peu.
Oui, c'est très important, puisque cette révolution numérique dont on parlait auparavant, elle amène une autre attitude par rapport à la connaissance et par rapport à l'innovation, à la façon dont on peut amener des solutions nouvelles. Et une des façons de faire, c'est vraiment de travailler collaborativement au sein de structures. Alors, on les appelle accélérateurs ou ateliers de co-création. Il peut y avoir plusieurs types d'approches, mais au sein de lieux où on va tout de suite tenter d'échanger sur ces possibilités. On va tenter de construire des modèles et de faire en sorte que ces modèles puissent affronter la réalité. C'est une approche qu'on a favorisée à travers ce dispositif Creative Wallonia qui encore une fois vise vraiment à permettre à un maximum de citoyens de Wallonie d'être acteurs de leur propre changement. Le ministre Marcourt a décidé d'aller plus loin par rapport à Creative Wallonia et donc de créer une sorte d'agence, un moteur, d'ailleurs on l'appelle en bon français l'engine, le Creative Wallonia Engine, ce qui souligne aussi la portée internationale que l'on veut donner à tout ça, puisque je rappelle que la Wallonie a été identifiée par l'Union européenne comme un district créatif européen à travers cette initiative Creative Wallonia. Donc la volonté, c'est vraiment d'aller de plus en plus loin dans cet effort d'innovation. Et voilà, le ministre m'a demandé, dans ce contexte-là, de continuer à jouer un rôle sur le plan des relations internationales, de l'internationalisation du processus. Et je suis très heureux de pouvoir continuer à le faire.
Ok, parfait. Alors la dernière question existentielle, celle à laquelle tu pourras réfléchir en attendant tes bagages à refaire. Qu'est-ce que tu ferais autrement si tu devais renaître il y a 20 ans, ou sorti de l'école ou quelque chose comme ça?
Ouais. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a une vie qui est finie, et je ne me pose jamais cette question. Je ne passe pas mon temps à essayer de redéfinir ça. Je viens d'un milieu très très modeste, un milieu ouvrier en Wallonie, Et j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de craquer le code, mmh. à essayer de comprendre comment toutes ces arcanes décisionnelles, tous ces lieux de pouvoir pouvaient finalement être pénétrés pour arriver à faire des choses, pour arriver à faire mmh. en sorte qu'il y ait des choses qui changent. Alors, je peux toujours éventuellement rêver que j'aurais pu aller plus vite pour craquer le code. On m'a toujours dit que j'étais très lent. Hein, donc,
ah oui.
c'est une possibilité. Mais surtout, plutôt de manière prospective, je crois qu'il faut aller plus loin dans la transparence, mais surtout dans des approches participatives et collaboratives, parce qu'on n'a plus le temps que des générations entières, justement, doivent comprendre comment craquer ce code à l'avenir. Il faut faire en sorte que beaucoup plus vite, les jeunes soient en mesure d'avoir les moyens de leur action et soient en mesure, à travers, par exemple, des projets de type start-up, mais on peut faire des start-up sur le plan des services, sur le plan de l'administration, sur le plan du bien commun, que des jeunes soient capables de faire très vite des propositions qui vont être retenues par la communauté, parce que, encore une fois, nous sommes engagés dans cette situation où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire au sens où les historiens utilisent ce terme, c'est-à-dire depuis qu'il y a des écrits, l'Occident n'est plus le lieu qui a l'avantage. Mmh. Il faut être capable de gérer les choses dans un monde qui est beaucoup plus vaste, un monde où tout va plus vite, où le changement est permanent. Et donc là, il est essentiel, en effet, qu'on construise ensemble. On doit quitter une forme d'individualisme qui nous anime beaucoup trop pour aller plus loin. Voilà, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais c'est intimement ce que je veux dire à propos... Enfin, c'est ce qu'elle me suggère.
C'est un learning. Voilà. Merci beaucoup, Henri.
Je t'en prie.
Bonne
au revoir, Stéphane.
Une bonne journée.
Ciao.
Bien, merci et merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode avec Stéphane Lefebvre, directeur de la Loterie Nationale, mais liégeois quand même.